Nous avons vu dans Genèse 1:26 que Dieu a créé l'homme à son image pour sa domination. Qui parle de domination parle de royaume. Le Seigneur veut amener son royaume sur terre. Il veut amener sa domination sur terre. Mais ce n'est pas lui qui le fait, il le fait au travers de l'homme. Et donc, on a Dieu, on a l'homme. Donc, Dieu a un plan. On a vu l'économie de Dieu. C'est que Dieu veut se dispenser en l'homme. Satan, l'ennemi de Dieu, il veut contrecarrer ce dessein-là. Initialement, qu'est-ce qu'il fait? Initialement, si vous avez remarqué, Satan, il veut empêcher que Dieu entre en l'homme. Donc, il ne veut pas que l'homme soit sauvé. Donc, il lutte pour ça. Si nous prenons nos expériences, l'expérience de notre salut, nous voyons quel battage, comment c'était difficile. Moi, quand je prends mon exemple, c'était vraiment difficile. Il a fallu que des personnes prient, qui posent des rails pour que le Seigneur puisse me sauver. Notamment ma mère. Ma mère a dû beaucoup prier pour moi. Mais quand nous recevons le Seigneur dans notre esprit, lorsque nous sommes sauvés, est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. On a vu que Dieu, il veut continuer. Il veut saturer notre âme. Donc depuis notre esprit, il veut saturer notre âme. Est-ce que l'ennemi de Dieu, il baisse les bras à partir du moment où nous recevons le Seigneur dans notre esprit? Non. L'ennemi de Dieu, puisqu'il a perdu cette bataille-là, il passe à l'étape suivante. Il veut empêcher que Dieu nous sature dans notre âme. Et lorsque nous recevons le Seigneur, nous avons reçu le Seigneur, pour tous ceux qui ont reçu le Seigneur, nous ne sommes plus ici, nous sommes dans cette sphère-là. Et cette sphère-là, ça prend toute notre vie. C'est notre transformation. Et ici, on voit l'ennemi de Dieu, il est dans cette bataille-là maintenant. On va revenir au plan. Donc, quand, je pense que c'est le frère Aaron qui partageait, que Dieu, quand il veut changer l'âge, il utilise toujours les jeunes. Toujours les jeunes gens. On a pris l'exemple de Daniel. Ici, on a l'exemple de Timothée. Et l'ennemi de Dieu, il attaque les jeunes gens. Il attaque les jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que Dieu veut utiliser ces jeunes-là pour changer l'âge. Donc, il les attaque. Et le titre du message 3, c'est « Un homme de Dieu ayant le souffle de Dieu pour contrer le déclin qui s'empire. » Si on lit le verset 1 de 2 Timothée 3, Paul qui dit « Oh, sache ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles. » Dans les derniers jours. C'est quoi le dernier jour? Ici, pour les apôtres, les derniers jours, c'était dans leur génération. Puisqu'ils s'attendaient ardemment au retour du Seigneur. Donc, c'était le dernier jour. Dans cet âge, nous attendons aussi le retour du Seigneur. Donc, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. En plus de cela, on a vu l'image dans Daniel. Presque tout le haut s'est accompli. Nous sommes au niveau des pieds, du pied, de l'orteil, tout ça. Et ça, c'est le dernier jour. C'est le dernier temps. Donc, le Seigneur, il a besoin de jeunes gens, comme on a chanté tout à l'heure. Il a besoin des Naziréens, des personnes qui ont un cœur pour lui, pour qu'il ait son royaume. Avoir son royaume, c'est-à-dire il a la domination. Si le Seigneur domine au travers de nous, il a son royaume. Une sœur m'a dit une fois, pourquoi Le Seigneur tardait à venir. Le Seigneur, il pouvait revenir. Pourquoi? Et elle m'a dit qu'elle pense qu'il y a deux raisons, au moins deux raisons qu'elle connaît. Et j'ai trouvé ça tellement juste. Le Seigneur, il nous a choisis avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc, il connaît le nombre. S'il a fait un choix, il connaît le nombre qui s'est choisi. C'est le Dieu omnipotent, omniscient, il connaît tout. Donc, il a le nombre des personnes qui doivent être sauvées, il les a. En plus de cela, il y a un autre nombre qu'il doit avoir. On en a parlé aujourd'hui, le reste. Les vainqueurs. Il faut qu'il atteigne ce nombre-là. Quand ce nombre-là sera atteint, le Seigneur va revenir. Et pour atteindre ce nombre-là, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent position pour lui, des personnes qui sont pour ses intérêts. En ce moment-là, oui, il pourra revenir. Et donc, nous voyons vraiment que nous sommes dans les derniers temps. Nous devons être des personnes qui s'attendent au retour du Seigneur, des personnes qui ont le désir que le Seigneur revienne. Quand on a ce désir-là, ça fait partie de la vaccination. Parce que quand on a ce désir-là, on ne se confond pas à l'âge présent. Parce qu'on prend position pour les intérêts du Seigneur. Si nous poursuivons dans le plan, je vais lire le point 1. 2 Timothée 3, 2, 5 fournit une image prophétique de la situation corrompue parmi le peuple de Dieu, du monde qui expose la propagation du déclin et de l'aggravation du déclin avec des temps graves de tromperie. Le point A, dans 3.1, Paul fait remarquer que dans les derniers jours, il surviendra des temps difficiles, c'est-à-dire des temps pénibles, des temps de deuil. Des temps dangereux seront extrêmement difficiles pour les chrétiens. On va tourner dans la page des versets bibliques. On va lire tous ensemble 2 Timothée 3, à partir du verset 2 jusqu'à 5. On peut lire ensemble. Car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, profanes, sans affection naturelle, incapables, diffamateurs, sans maîtrise de soi, sauvages, n'aimant pas le bien, traîtres, inconséquents, aveuglés par l'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, ayant la forme de la piété, tout en reniant sa puissance, détourne-toi aussi de ces hommes-là. Quand on a fini de lire ça, beaucoup de croyants pensent que ce dont on a parlé, la situation qui est décrite ici, c'est les personnes du monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien dans l'Église. On peut le voir. Dans l'Église, c'est bien dans l'Église parce qu'il ne s'agit pas de la société non chrétienne, il ne s'agit pas des non-croyants, il s'agit bien dans l'Église. Et ça, c'est la chrétienté, c'est ce qu'on appelle la chrétienté dégradée, détériorée. C'est ça le déclin. C'est quoi la chrétienté? La chrétienté, c'est l'Église qui décline, qui est détériorée. Qui apporte des choses, des mélanges dans l'Église, des choses qui ne sont ni le Seigneur, ni pour le Seigneur. Si on lit dans le verset 5 par exemple, nous dit « Ayant la forme de la piété ». C'est quoi la piété? La piété, c'est... Ça vient de pieux. Piété, c'est révérer Dieu, c'est-à-dire on exprime Dieu. Ici, ayant la forme de la piété. La forme de la piété, ça veut dire qu'il y a une forme quand même, n'est-ce pas? Les non-croyants, ils n'ont pas la forme de la piété. Ils n'ont même pas l'apparence même de la piété, puisqu'ils n'ont pas Dieu. Donc, ça montre vraiment que ici, c'est dans l'Église. Et si on lit dans 2 Timothée, Timothée 2 au verset 20, il nous dit, or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont pour l'honneur, les autres pour le déshonneur. Donc on voit vraiment ici, la grande maison dont on parle, c'est la chrétienté. Et donc, ne nous y trompons pas, c'est vraiment dans l'Église que ça se passe. Et pourquoi cela arrive? C'est ce que j'ai expliqué tantôt. C'est l'œuvre de Satan. Satan, il veut détruire les jeunes. Il veut détruire les jeunes. Ici, on voit des expressions, par exemple, telles que, si je lis le B nous dit, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est un attachement excessif de soi-même qui nous amène à ne vivre que pour nos intérêts, pour notre propre intérêt, au détriment de l'intérêt de Dieu. On a vu ici, depuis ce week-end, que le Seigneur a un besoin. Et ce besoin-là, si on veut répondre à ce besoin-là, on ne doit pas être égoïste. On doit oublier les francs, donner leur témoignage. Un témoignage dépourvu de tout égoïsme. Parce qu'ils ont abandonné beaucoup de choses pour l'appel du Seigneur, pour le témoignage du Seigneur. Et l'ennemi, il veut gagner des jeunes gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va leur infuser ces choses-là. Avare, vantard, arrogant, injurieux, désobéissant à leurs parents, ingrats. Je vais m'attarder un peu sur ces deux avant-derniers points. Donc, désobéissant à leurs parents, ingrats, ça va de pair. Ça fait, je disais à des frères tantôt que ça fait, en février, ça va faire 20 ans que je suis dans le Seigneur. Et pendant les 20 ans, j'ai vu des choses au niveau même des jeunes. Si on est désobéissant à ses parents, c'est très grave. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, il injecte cela dans les jeunes gens qui deviennent rebelles, désobéissants à leurs parents. Et une fois qu'on est désobéissant à ses parents, je prends un peu l'image que Brian nous a donnée ici. Il y a des petits trous qui se percent au travers de notre conscience. Et la foi se dissipe. On perd l'amour pour le Seigneur. Ici, je vous répète encore, ce n'est pas des non-croyants. La preuve, on parle de Timothée, n'est-ce pas? Et Timothée, il était le contre-exemple de tout ça. Timothée était le contre-exemple de tout ça. Timothée obéissait à ses parents. Vous savez pourquoi? C'est écrit nulle part, mais le principe, il est là. Timothée, il était obéissant à ses parents, puisqu'il était contre tout ça. Il n'était pas ingrat. L'ingratitude, c'est quoi? C'est le manque de gratitude. Il faut avoir la gratitude envers ses parents. Avoir la gratitude envers nos serviteurs qui nous donnent Christ. Sur ce point-là, j'ai... Ok, on va montrer un peu pour Timothée. Si on lit dans 2 Timothée 1:5, mais avant ça, on va lire peut-être Éphésiens. Éphésiens 6, 1 à 4. Qu'est-ce que Paul nous dit? Et ça, je pense que c'était l'attitude de Timothée. Enfant, Obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, ce qui est le premier commandement avec une promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Si on lit 2 Timothée 1:5, Paul qui dit, « Me rappelant la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. » On voit ici cette transmission de la réalité, de la grand-mère à la mère, au fils. Si Timothée était désobéissant à ses parents, si Timothée était ingrat, il n'allait pas avoir cette réalité-là. L'ennemi sait toutes ces choses-là. J'ai vu des jeunes gens qui avaient ces attitudes-là, ils ne sont plus dans la vie de l'Église. C'est très grave. Faites attention. C'est très grave. Faites attention. Si Paul mentionne ces choses-là ici, il faut être vacciné contre ça. Parce que ça entraîne le déclin. Et nous ne devons pas participer à ces choses-là. On ne doit pas être trouvé dans ces choses-là. Donc, c'est vraiment une chose très, très grave. Une autre chose, c'est vraiment la gratitude. Et tout à l'heure, quand j'ai écouté le témoignage des frères et sœurs, il y a cette gratitude-là qui s'est levée en moi, mais ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois parce que moi, je suis entré dans la vie de l'Église à Paris. Et peut-être ceux qui ne connaissent pas, le frère a parlé un peu du recouvrement du Seigneur, peut-être n'a pas trop détaillé, n'est pas allé trop loin. Ceux qui ne connaissent pas un peu le recouvrement du Seigneur, ici, on a dit que le Seigneur, il entre dans notre esprit, il veut se propager. On a chanté que l'évangile du royaume doit être proclamé, n'est-ce pas? L'évangile du royaume, c'est pour amener la domination de Dieu. Donc, moi, quand j'ai cru au Seigneur, j'ai entendu l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, pourquoi? Pour notre salut. Le Seigneur, pour la rédemption, il nous lave de nos péchés, il nous sauve et on a la vie éternelle. Amen. C'est le début. Mais l'évangile du royaume inclut l'évangile de la grâce. Mais en plus de cela, l'évangile du royaume veut que Dieu ait un royaume, mais la réalité du royaume des cieux. Et pour avoir cette réalité-là, il faut que nous soyons saturés ici. Et ça, on n'entend pas beaucoup ça dans la chrétienté. Moi, je n'avais jamais entendu ça. Donc, on est limité à ça. C'est très difficile d'expérimenter quelque chose qu'on ne sait pas. C'est très, très difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de proclamer l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, on a besoin de le proclamer. Il faut le savoir. Il faut avoir ce bon dépôt-là pour pouvoir le proclamer. Donc, quand moi j'étais à Paris, j'étais sauvé en 2004. Donc, en 2004-2005, j'ai croisé des personnes dans le métro, à côté de mon université. Il y a des personnes qui ne m'ont pas laissé indifférent. Un peu comme on distribue les Bibles dans le métro ici à l'Université de Montréal. C'était exactement la même chose. Je passais comme ça et puis on m'a tendu. Et j'ai échangé un peu avec ces personnes-là. Je n'avais jamais vu des croyants comme ça. Ils étaient différents. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est sorti d'eux qui m'a touché. Et j'ai vu que ces personnes étaient différentes de tous les autres croyants que je connaissais. Et c'est comme ça, j'ai pris ce qu'ils m'ont donné, j'ai lu tout et tout. Mais spécialement, il y avait un couple un Américain, Russell Newman, et sa femme. Elle est française, mais ils vivent aux États-Unis. Russell, il ne parle pas un mot français. Ou du moins, il parle trois mots français. Pain au chocolat, et puis l'éclair. Quand il va à la boulangerie, pour pouvoir avoir... c'est le seul mot qu'il connaît. Il ne parle pas français. Mais c'est ce couple-là qui m'ont paix. Ils m'ont donné la nourriture spirituelle. Ils m'ont fait grandir dans le Seigneur. Quand on regarde, ils n'ont rien à faire en France. Ils n'avaient rien à faire en France. Rien, mais vraiment rien. Mais ils ont tout abandonné. Ils ont laissé leur maison. Ils ont tout laissé et sont allés en France. Pour qui? Pour moi. Pour moi. Ils sont allés en France pour moi. C'est comme ça que je suis entré dans la vie de l'Église. Si comme ça ne suffisait pas, j'arrive à Montréal. J'arrive à Montréal. Je réalise, une fois ma femme, moi et ma femme, on était là, on dit, mais c'est pas possible. Si vous vous rappelez, à Montréal, corrigez-moi si c'est pas vrai, si je me trompe, mais quand on était arrivé, on était pratiquement les seuls qui ne parlaient pas anglais dans le groupe francophone. Pratiquement. Vraiment pratiquement. Donc, tous les autres frères, Lisa, Aaron, Alain, tout le monde, presque tous, ils avaient la capacité de jouer en anglais, de fonctionner uniquement en anglais. Mais ce n'était pas le cas. Imaginez-vous un seul instant, s'ils faisaient cela, je ne serais pas devant vous en train de parler. Parce que je pense que spirituellement, je serais mort. Mais, moi j'ai vécu à Montréal, si comme il n'y avait pas d'anglais. Je vis à Montréal, c'est comme il n'y a pas d'anglais. Pourquoi? Parce que les frères se donnent, les soeurs se donnent. Et ça, cette gratitude, quand Lisa donnait son témoignage, c'est la première fois que j'entends le témoignage complet. Mais je réalise que 40 ans, le choix que le Seigneur a fait, c'était pour moi. Quand Brian, il dit qu'il a abandonné toutes les choses, c'est pour moi. Quand les frères disent qu'ils n'aimaient pas, ce n'était pas le fun qu'ils se sont donné en français, mais c'est pour moi. Donc les jeunes gens, le Seigneur a besoin que vous pratiquiez le français. Il y a un besoin tellement en Europe. On peut se dire, ok, en Europe, il y a des croyants qui peuvent faire ce travail-là. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit, c'est très rare de voir les croyants parler de ces choses-là. Moi, je connais, j'ai fait les dénominations, j'ai fait ces choses-là. C'est très rare, très, très rare. Quasiment, on ne va pas dire impossible, mais c'est très, très, très rare. Donc, ces choses-là, ils ont besoin d'entendre ça. Amen. Et c'est ça qui nous prépare. C'est ça qui nous prépare à devenir des vainqueurs. Amen. Et le Seigneur a besoin de vainqueurs. Tant qu'il n'aura pas ce nombre-là, il ne pourra pas venir. Et donc, il faut qu'on réponde à cet appel-là. Il faut que vous répondez à cet appel-là. Si on progresse au point C, sans affection naturelle, implacable, diffamateur, sans maîtrise de soi, sauvage, aveuglé par l'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. Le frère Alan a partagé dans son message que le déclin, la dégradation, De l'Église a commencé à partir de, on a vu à partir d'Éphèse. C'était quoi la particularité d'Éphèse? Ils avaient perdu le premier amour. Ils avaient perdu le meilleur amour pour le Seigneur. Donc, si on aime les plaisirs plutôt que Dieu, on perd notre amour pour le Seigneur. On perd le sens même de se donner pour l'intérêt du Seigneur. Donc, il faut vraiment que notre amour pour le Seigneur soit constant. Et pour que cet amour-là soit constant, on a besoin d'être vacciné. On a besoin de prendre l'antidote qui est la parole du Seigneur. Alors, on va partager un peu sur ça après. Mais on a vraiment besoin que notre amour soit gardé. Le point D nous dit, ayant la forme de la piété, tout en régnant sa puissance, détourne-toi aussi de ces hommes-là. J'aime vraiment ce dernier point-là. Détourne-toi de ces hommes-là. Donc, tout ce qui a été cité dans le verset 1 à 5, ces hommes-là, Paul exhorte de se détourner. Il y a deux manières, il y a deux caractéristiques vis-à-vis de ça. Lorsque je suis devant cette table-là, si je me détourne de cette table-là, ok, je me tourne forcément vers quelque chose d'autre. N'est-ce pas? Si je me détourne, il faut que je me tourne vers la bonne chose. Sinon, je peux me détourner de cette table-là et puis me tourner à une autre mauvaise chose. En fait, je n'ai rien fait. Donc, il faut que je me tourne vers la bonne chose. Et ici, en l'occurrence, on voit « Détourne-toi aussi de ces hommes-là. » On peut ajouter 2 Timothée 2:22. En poursuivant, donc, détourne-toi de ces hommes-là, en poursuivant avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On a vu ici le frère Yvan qui a donné son témoignage aussi, qu'il poursuivait avec les frères, c'est un modèle, n'est-ce pas? Quand on vous dit de détourner de ces personnes-là, vous devez avoir deux attitudes. Ok, détournez-vous des pratiques de ces personnes-là. Mais ne vous détournez pas de ces personnes-là en tant que telles. Au contraire, vous devez aller les vacciner. Vous devez aller les vacciner. Avec le bon dépôt que vous avez reçu, vous devez vacciner ces personnes-là pour qu'elles reviennent au Seigneur. Le point E, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes mauvais et les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, trompant les autres et étant trompés eux-mêmes. Donc, on voit ici la situation du déclin. C'est pitoyable. Comme je disais, on ne doit pas s'associer à ça. On doit fuir ces choses-là. On va tourner rapidement au message 4. On voit le contraste de ce point-là au point 3 du message 4. On peut lire le grand 3 ensemble. C'est bon. Le Romains 3 du message 4.
Romains 4, 8 à 10.
Nous voyons. Yes. Ceux qui aiment l'âge présent.
Nous pouvons prendre parti pour lui et lutter avec lui dans ses intérêts. Nous pouvons prendre parti avec le monde.
Amen. Donc ici, on voit vraiment que nous devons prendre parti. Pour prendre parti, nous ne devons pas être égoïstes. Nous devons prendre position, prendre parti pour les intérêts du Seigneur. Mais pour cela, nous ne devons pas aimer l'âge présent. Ça va de pair. Si on aime l'âge présent, on ne peut pas prendre intérêt pour le Seigneur, pour notre propre intérêt, pour notre plaisir. Ici, on voit au point A, Paul dit à Timothée, « Empresse-toi de venir bientôt vers moi. » Il ne pouvait écrire un tel mot qu'à une personne très proche de lui et à une personne dont il a besoin, n'est-ce pas? On voit ici l'exemple de Démas, le frère Yvon aussi avait partagé sur ça. Point 1. Car Démas m'a abandonné ayant aimé l'âge présent. Jeunes gens, n'aimons pas l'âge présent. N'aimons pas l'âge présent. Je pense qu'il y a une question qui a été posée. Comment on fait pour ne pas aimer l'âge présent? Ok. Si je décide de ne pas aimer l'âge présent, que je fais des efforts pour ne pas aimer l'âge présent, je vais aimer l'âge présent. Plus je vais faire ça, plus je vais aimer l'âge présent. La meilleure manière de ne pas aimer l'âge présent, c'est de jouir du Seigneur. Plus on jouit du Seigneur, plus on déteste l'âge présent. Yvan a donné l'exemple. Il aimait le basket, n'est-ce pas? Mais quand il a commencé à jouir du Seigneur, quand il a commencé à se préoccuper des choses du Seigneur, naturellement le basket est parti. Donc, amen. Le point 2. Luc, seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Les frères ont libéré le fardeau concernant le besoin du Seigneur dans le monde francophone. Le Seigneur a besoin de jeunes qui pratiquent le français. On ne sait pas où le Seigneur va vous amener. Il y a des besoins partout en français. En Afrique, il y a des besoins en français. Des besoins. Le besoin est colossal. Vous ne le savez même pas. Il y a le besoin partout. En France, il y a le besoin. Donc, coopérez avec le Seigneur pour être utile à son avancement. On va terminer avec le point B, on va le lire ensemble. Lisons-le avec un esprit exercé.
Amen.
En tant que jeunes gens dans la vie de l'Église, nous devons tous apprendre à contacter le Seigneur dans notre esprit afin de jouir du Dieu trinitaire, passer par un processus comme étant la grâce. Si nous exerçons notre esprit afin de jouir de cette grâce, nous aurons la réalité de l'économie de Dieu au milieu du déclin de l'Église. Amen. Loué soit le Seigneur. Jeunes gens, puissiez-vous répondre à cet appel. Et priez le Seigneur tout le temps. Seigneur, je m'offre à toi. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, je vois ton besoin, je me donne à toi. Et le Seigneur, il est fidèle. Il va faire cela en vous. Amen.
Vous avez aimé les témoignages de tous les saints. Moi, j'ai beaucoup apprécié tous les témoignages. Donc, nous arrivons à notre dernière moitié du message. Et j'espère que vous avez pris des notes, parce qu'après ce dernier message, c'est à votre tour de compléter la conférence. Donc, vous aurez tous la chance de libérer ce que le Seigneur vous a parlé. Donc, pour ma partie, en fait, j'ai seulement un mot pour vous, OK? Un mot qui résume ma portion, c'est... La parole. On a parlé de Satan. Notre frère a dit que Satan, Dieu a un plan, Dieu a une volonté, mais Satan, lui aussi, il a un plan, une volonté. Donc, on a besoin de quoi? Le plan nous dit, on a besoin d'un antidote. OK. Un antidote. Tu sais, le fait que Satan a créé le monde, le cosmos, Satan a créé l'âge présent, en fait, on voit ça même dans Exode avec Moïse. En fait, Pharaon, chapitre 1, il voulait se débarrasser de tous les garçons juifs. Ça montre que Satan veut se débarrasser des jeunes. Satan ne veut pas que les jeunes soient élevés, qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils aiment l'apparition du Seigneur, parce qu'il sait que si le Seigneur gagne un groupe de jeunes, ben, il pourra revenir, son royaume viendra. Donc Satan, lui, fait tout son possible de les détruire, de les distraire, de les remplir de toute autre chose. Donc pour se battre contre ça, on a besoin d'un antidote. Quand je pense à antidote, je ne sais pas, c'est comme... OK. Et c'est quoi l'antidote qui nous est révélé? C'est la parole. L'antidote pour Satan, le monde, l'âge présent, c'est la parole. On va lire. C'est dans vos versets bibliques, après le plan numéro, on prend le message 3. OK? 2 Timothée 3, 14 à 17. OK? C'est ces quatre versets-là. Peut-être cette section, vous pouvez lire 14, cette section 15, cette section 16, et tous ensemble verset 17. OK? Verset 14. 1, 2, 3, go!
Que dès ton enfance, tu connais les textes sacrés qui peuvent te rendre sage sans lui à la foi qui est en Christ Jésus.
16. Amen. Tous ensemble, 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, pleinement équipé. Ça part de la parole, les textes sacrés, les choses que tu as apprises. Toute écriture, c'est quoi? C'est la Bible. Donc, dans tout ce contexte du déclin de l'Église, la dégradation, Paul a dit à Timothée, il faut que tu connaisses l'antidote. Et en fait, on a parlé du vaccin. Et en fait, le vaccin peut être résumé, comment dire, le vaccin se trouve dans la parole. OK? La parole contient tout. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole. Et tu sais, Satan, on revient à celui, le loser, Satan. Satan, lui, il sait aussi. Lui, il est intelligent. Lui aussi, il a... Chaque fois que Dieu donne quelque chose de bon à l'homme, Satan vient derrière et il a quelque chose comme une autre chose. Et tu sais une autre chose qui comme englobe tout dans le monde? Un téléphone. Genre, tout ce dont nous avons besoin est dans cet appareil-là. Vraiment. Tu veux faire des transactions de banque, tu peux utiliser ton téléphone. Tu veux vérifier ton email, dans ton téléphone. Tu veux écouter la musique, ton téléphone. Quoi que tu veux faire, tu veux regarder les nouvelles qui parlent du monde. Je passe trop de temps. Je passe trop de temps. Tout ce dont Satan a besoin pour nous distraire est dans notre téléphone. Satan, il sait. Mais il faut avoir le contre-outil. Okay, ce n'est pas un vrai mot, mais... L'autre chose qui est contre ça, OK, c'est la parole. Dieu nous a donné le meilleur cadeau pour grandir, pour être utile, pour être équipé, pour être vacciné. C'est la parole. Et donc, ma portion, mon fardeau est vraiment simple. Il faut connaître la parole. Il faut chérir ce livre-là. Il faut lire la parole, OK? Il faut lire la Bible. C'est comme ça qu'on devient des Timothées. C'est en nous unissant en mangeant la parole de Dieu, qu'on peut être préparé, équipé pour être les Timothées, pour être fidèle à son retour. OK, revenons au plan message 3. Okay. Lisons tous ensemble point Romains 2. 1, 2, 3. L'antidote dans la vaccination divine contre le déclin est les Écritures insufflées de Dieu, qui est utile pour enseigner, convaincre. OK. Le point A, les frères, avec un esprit fort. La Bible est le souffle de Dieu. Ce souffle est l'esprit de l'esprit. Donne la vie. Les sœurs, un, avec un esprit fort. Et je vais lire le point 2. Notre enseignement de la parole devrait consister à expirer Dieu pour dispenser sa vie. En fait, ça, c'est le point d'après. Mais ici, ça parle de les Écritures comme le souffle de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça dans 2 Timothée 3:16? Toute Écriture est un manuel. Non. Toute Écriture est un livre. Non. Toute Écriture est insufflée. Amen. Insufflée. Donc, la clé pour recevoir l'antidote, c'est que la parole soit le souffle, soit insufflée, Amen. Soit quelque chose de... OK? C'est pas juste... Il faut pas que la parole reste juste sur le noir et blanc. La parole qui est sur le noir et blanc, c'est pas assez. C'est un début. C'est la base. Mais même beaucoup de personnes dans le monde, ils lisent la Bible, ils connaissent la Bible, mais juste le noir et blanc. Ils la lisent comme un manuel, peut-être un livre de philosophie, un livre intellectuel. Mais le point ici, le point, ce qui est vraiment le vaccin, l'antidote, c'est la parole qui est insufflée. C'est en fait la parole en grec, OK? En grec, il y a deux mots pour la parole. Logos, qui est la parole constante, la parole noir sur blanc. Mais d'autres versets dans le grec original parlent de la parole rhéma. Et c'est la parole rhéma qui est l'antidote. C'est quoi ça? C'est quoi logos, rhéma? Je parle de quoi? OK. OK. Je ne sais pas c'est où, mais quelqu'un sait Jean 6, 63? Jean 6, 63? OK. Ça parle aussi de la parole. OK. La parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Okay? On a la parole, mais on a l'esprit et on a vie. Peut-être que tu peux préparer. Donc la parole doit être esprit et vie. Okay? Si tu dis ça aux gens, peut-être qui connaissent la Bible, ils vont dire, quoi? Esprit et vie, c'est quoi? Moi, je connais, il y a le livre de Matthieu, il y a le livre de Genèse, mais cet esprit et vie, c'est quoi? OK. C'est la clé de vraiment recevoir l'antidote. Il faut que la parole soit esprit et vie. OK. J'ai voulu apporter... OK, est-ce que je mettais... Est-ce que je suis... Attends. Ouais, OK. Vas-y, OK. On va montrer l'image, OK? OK. J'ai essayé de trouver une boîte d'allumettes à la maison, mais je n'ai pas pu trouver. Donc, j'avais un backup plan, OK? Donc, il faut que la parole... Même ça dit dans... Philippiens, je crois que c'est Philippiens, que il faut, en tout cas, dans 2 Timothée, il faut ranimer le don, ok? La parole devient l'esprit et vie quand nous attaquons la Bible, ok? La parole qui est noire sur blanc, c'est la boîte, ok? Mais pour avoir une flamme, pour que la parole soit vraiment l'antidote, il ne peut pas juste rester sur la boîte, OK? Il ne peut pas rester noir sur blanc. Il faut que nous frappons, peut-être attaquer, c'est pas le bon, frappons, il faut que nous frappions la parole, OK? Il faut être comme, ah! OK? Même un peu violent des fois. Parce que nous sommes trop chill, OK? Quand nous lisons la Bible, c'est comme, oui, tu me dis, ah, quoi? Toute écriture est insufflée de Dieu. OK, de Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre. Pour que ça ne va pas devenir, tu vois, ça va pas être l'antidote. Il faut que on frappe pour avoir le feu, pour que la parole soit vraiment en nous. Il faut une flamme. Il faut activement faire quelque chose. Il faut activer, il faut toucher l'esprit qui est dans la parole. Quand on touche l'esprit qui est dans la parole, c'est genre le phosphore, OK? Quand on frappe notre esprit, dans l'esprit de la parole, il y a une flamme. C'est ça qu'il faut, il faut s'exercer. Il faut lire la parole de cette façon. Okay? On ne peut pas seulement le lire juste d'une façon mécanique. C'est bien qu'on lit la parole d'une façon routinière. Okay? Ça commence par ça. Ça commence par manger régulièrement notre déjeuner, okay? Religieusement même. Ça commence par ça. Mais on ne peut pas juste se limiter à ça. Pour que la parole devienne un vaccin, OK, il faut que la parole soit esprit et vie. Une autre image. Okay. Une fois à une conférence, il y avait un frère qui a vraiment amené la glace, comment on appelle ça, la glace gazifiée, en tout cas, j'ai oublié le nom. La glace gazifiée, OK? Vous avez déjà, dans votre cours de chimie, vous allez voir ça. C'est la glace, mais en forme de gaz, OK? Il y a comme le carbone dioxyde, comment j'ai oublié le nom là? Carbone dioxyde, OK? Puis ça fait en sorte que la glace devient le gaz. C'est une image de la parole solide qui doit devenir le gaz. OK? Ça doit devenir quelque chose de... Ah, c'est comme... Il y a une force, il y a une souffle. OK? Si vous n'avez aucune idée de ce dont je parle, il faut le pratiquer. Il faut parler. Montre-moi. Brian, montre-moi. Okay. Montre-moi comment faire. C'est vraiment de prier la parole. OK? La façon de que la parole soit gazifiée, c'est qu'il faut prier la parole. Pas juste lire, mais il faut le prier. OK. Oh, Seigneur Jésus. OK. On va continuer à lire le plan. OK? Le point B. Je vais juste lire à cause du temps. Du côté de Dieu, la Bible est la respiration. De notre part, nous recevons la Bible comme le souffle de Dieu à notre profit en quatre domaines. L'enseignement, la conviction, la correction et l'instruction dans la justice. C'est le verset 16. OK? Et donc, dans le plan, ça explique chacun de ces éléments-là. L'enseignement, OK. L'enseignement équivaut à la révélation. Enseigner revient à écarter le voile pour que d'autres puissent voir quelque chose du Dieu trinitaire et son économie. Donc, si la Bible ne nous enseigne pas, si la Bible c'est juste un manuel, ben, nous n'allons pas voir quelque chose de plus profond. Il faut être dévoilé. Okay? Il faut lire la Bible jusqu'à temps qu'on soit dévoilé, qu'on voit, waouh, il y a quelque chose de plus profond. Tu sais, même de voir que dans Exode, okay, que Pharaon, le fait que Pharaon a tué les premiers-nés garçons, que ça signifie que Satan veut nous détruire les jeunes. Ça, c'est une révélation. Ça demande, est-ce que ça ne vous éclaire pas? On relit ce qui est dans la Bible il y a des milliers d'ans à aujourd'hui. C'est une révélation. C'est un dévoilement. Il faut lire la Bible de cette façon.
Amen.
Okay. Le point 2, la conviction découle de la révélation que nous avons vue. Le moment où nous voyons quelque chose de Dieu, nous sommes conscients de nos erreurs, fautes, lacunes et péchés. Il y a 2 Timothée 2:22, okay, qui parle de fuir les convoitises du monde et de poursuivre ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Les convoitises, pas du monde, mais de jeunesse. OK? Ça parle des jeunes. Ça parle des jeunes. Et donc, pour moi, ce verset-là, quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup aidé. En fait, c'était un des versets que, comme dans toutes les conférences et écoles de vérité, on priait, lisait. OK? Donc, prier, lire, c'est quoi? C'est de prendre la parole et de le prier. C'est ça de frapper la parole. C'est, fuir! Oh Seigneur, oh je veux fuir. Oh Seigneur, oh les convoitises. Seigneur Jésus, oh il y a plein de convoitises. Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas être dans le péché. Sauve-moi.
Amen.
Il y a une transaction. Il y a une transaction. Souvent c'est comme agressif. Oh Seigneur, Seigneur, convoitise, Seigneur. Oh je veux poursuivre. Fuir et poursuivre. Amen. Seigneur, fuir et poursuivre avec ceux.
Amen.
Ceux qui invoquent. Merci, j'ai ceux. J'ai des compagnons avec qui je peux invoquer ton nom.
Amen.
Ah, plus on frappe, plus, wow, la parole devient... Okay? Il y a de l'énergie. Okay? Vous voyez comment lire la Bible, comment jouir de la Bible? Comment frapper l'esprit qui est dans la parole? Il faut que la parole soit réelle à nous,
Amen.
Soit vivant à
Amen.
Nous. Et ce verset-là, hein, ça, le 2 Timothée 2:22, ça nous convainc, ça nous montre qu'on devient conscient de nos erreurs, nos fautes, nos lacunes, nos péchés. puisqu'on a préélu cette parole comme ça, et cette parole est réelle à nous, donc quand, c'était mon expérience, quand je suis allé à quelque part avec des amis, j'avais un sentiment, j'avais une conviction que je ne devrais pas être là. Ce sentiment venait d'où? Ça venait de la parole. Parce que j'ai joui de la parole n'était pas juste sur le noir et blanc, la parole était réelle. Le Seigneur a pu me parler, me toucher, me convaincre. La parole doit opérer en vous de cette façon. Okay. Trois, la correction. Okay. La correction suit la conviction et consiste à redresser ce qui est faux et à remettre quelqu'un dans le droit chemin. J'ai considéré un verset qui m'a déjà corrigé intérieurement. 1 Corinthiens 12, 23. « Et les membres du corps que nous estimons être les moins honorables, ceux-là, nous les revêtons de beaucoup d'honneur. » OK. Le Seigneur a utilisé ce verset pour me corriger de temps en temps ou dans mon service pour le Seigneur. Que dans le service, peut-être il y a certains qui sont moins honorables, peut-être qu'ils sont moins capables, ainsi de suite. Mais ça dit, il faut leur donner plus d'honneur. Ceux que... Hein? OK, vous n'avez pas la main, c'est dans mon iPad. Ceux qui nous estimons moins honorables, ceux-là, nous les revêtons de beaucoup plus d'honneur. C'était une correction, puisque j'ai mangé la parole, j'ai frappé la parole, que ça a devenu rhéma. Rhéma veut dire une parole instantanée, une parole qui est spontanée, la parole qui, à un moment, le Seigneur nous parle. Donc, encore une fois, que je me répète, il faut que la parole soit esprit et vie.
Amen.
Et puis finalement, la parole a l'effet de nous instruire. Le point 4. L'instruction dans la justice revient à être divinement instruit pour se réjouir de Christ et à être divinement discipliné pour être juste vis-à-vis de Dieu et de l'homme. Amen. OK. Mais... La parole que nous avons frappée et tout ça, la parole qui devient réelle à nous, ce n'est pas juste pour nous. Le fardeau, encore une fois, le fardeau que Paul avait pour Timothée, ce n'était pas juste pour le bénéfice de Timothée. C'était pour qui d'autre? Pour les autres, pour ses compagnons, pour ceux autour de lui. Donc, la parole dont nous avons réjoui, dont nous avons joui, dont nous avons, que nous avons mangé, ça doit être servi, dispensé aux autres. C'est ça la deuxième partie. Okay? En fait, si on lit le plan numéro 4, okay? Si on tourne message 4, point B. Lisons le point B ensemble, en dessous de Romains 1. Okay. Ça commence avec « Proclame la parole ». Disons-le ensemble. 1, 2, 3, go. « Proclame la parole. Sois prêt en temps et en temps. Convainc, reprends, exhorte en toute longanimité et enseignement. » OK, les frères, 1. Point 2, les sœurs. Qu'est-ce qui va convaincre les gens? Qu'est-ce qui va toucher les gens? Est-ce que ça va être simplement une connaissance de la Bible? Ah, tu sais, si on dit le sujet de Romains, waouh, c'est l'évangile de Dieu, prendre les pécheurs et faire d'eux des fils de Dieu pour constituer le corps de Christ qui s'exprime en tant qu'église locale. C'est merveilleux. Mais est-ce que c'est réel pour vous? Est-ce que c'est votre réalité? Réciter la Bible, bien que c'est bien de réciter, mémoriser la Bible, mais juste le fait de répéter la Bible aux autres, est-ce que ça va nécessairement les toucher? Non. La façon de toucher les gens, de servir les gens de la parole, c'est que nous d'abord, il faut que nous jouissons de la parole. Donc, quand on parle aux autres, et nous aurons la chance de parler, okay, pratiquer, il faut pratiquer. C'est une question de pratique. Même pour nous, les vieux, OK? Il faut pratiquer à parler selon ce que le Seigneur nous a, ce que nous avons digéré, mangé, que la parole opère, que Dieu opère en nous. C'est ça qui va encourager les gens. C'est ça qui va nourrir les gens. Et donc, Paul a chargé à Timothée de proclamer la parole expérimentée, la parole qui est devenue réelle à nous. Et donc, en tant que jeune, vous n'êtes pas trop jeune, OK, d'entrer dans ces choses, de pratiquer, de manger la parole et de la parler. OK? Vous avez plein d'occasions dans la vie de l'Église de parler. Et vous savez quoi? Ce week-end, on a un fardeau que vous pratiquez à parler pour le Seigneur en français. OK? Donc, en plus, on a beaucoup de choses à pratiquer. Donc, est-ce que nous allons répondre à l'appel? Est-ce que nous allons nous donner à ça, à d'être des Timothée pour entrer dans la Bible, pour que la Bible soit réelle à nous et pour que nous puissions parler aux gens, de les dispenser de la parole? OK. Ah, c'est terminé. OK. Mais est-ce que vous allez, quoi, prendre le bâton? Est-ce que vous allez répondre à l'appel? Est-ce que vous allez vous exercer à entrer dans ces choses, à garder le bon dépôt? C'est à vous. C'est dans votre camp. C'est votre choix. Mais le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de votre portion. Les plus vieux ont besoin de votre portion. Les saints demain matin ont besoin de votre portion. Vous aurez la chance aussi de prophétiser, certains d'entre vous. Votre portion, votre jouissance de cette conférence, et en plus en français. N'est-ce pas bien? Amen.